Oui, merci Thierry. Effectivement, on va commencer une nouvelle série aujourd'hui sur l'évangile de Marc, série qui a été proposée par le pasteur Mwanza. Merci Mwanza pour ta guidance vers les 3 mois qui viennent. On va faire cette série donc, qui nous emmène aussi vers Noël ensuite et qui va parler essentiellement de la personne de Jésus. Et pour cela, j'ai préparé un petit PowerPoint. Déjà, est-ce que vous allez bien ? Oui ? Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués ce matin. Ça fait plaisir de vous voir, tous réunis, pour ce dernier culte tous ensemble. On aura d'autres occasions quand même d'avoir des cultes tous ensemble, parce que pendant les vacances, on va faire un seul culte, notamment à Noël. Ça commencera à Noël, si jamais. Mais c'est une joie de pouvoir vivre ça ensemble. Et quel grand moment de pouvoir départager comme ça nos forces avec l'aide de Dieu. Je propose de prier pour commencer. Seigneur Jésus, merci pour ta croix. Merci Seigneur parce que tu nous guides vers une vie nouvelle. Merci Seigneur parce que tu nous guides vers des choses nouvelles. Seigneur, tu fais de nous des créatures nouvelles. Toutes choses sont nouvelles avec toi. Oui Seigneur, tu transformes nos vies. Tu transformes nos larmes en joie. Seigneur, merci parce que tu continues de nous transformer jour après jour. Tu continues d'être notre exemple chaque jour, Seigneur. Et merci parce qu'on peut voir Dieu au travers de toi. Amen. Donc j'ouvre cette thématique avec les 3 premiers chapitres de Marc. Et ainsi de suite, ça va se suivre pendant les semaines qui viennent. Et ce qui m'a particulièrement touché pour partager aujourd'hui, c'est Jésus, l'homme-Dieu. C'est le fait que Jésus est un homme et qu'il est Dieu en même temps. Et qu'il est en fait le seul homme qui est Dieu aussi, qui est Dieu en même temps. Et est-ce que ce n'est pas incroyable d'avoir un homme qui est Dieu ? Est-ce que ce n'est pas complètement fou de penser ça, que Jésus est à la fois un homme et à la fois Dieu ? C'est tellement fou qu'il y a eu des discussions pendant les 2 derniers millénaires là-dessus, de savoir comment c'est possible. Mais je ne vais pas tellement parler de théologie ce matin, mais je vais plutôt parler de ce que l'Évangile nous dit là-dessus et de ce qu'on peut en tirer. Voilà. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que dans ces 3 premiers chapitres, eh bien, Jésus avait 3 sortes d'activité principale. La première activité, c'est les relations. Jésus passera beaucoup de temps à avoir des relations avec les gens. Deuxième activité, il passera beaucoup de temps à prier. Il passera du temps avec Dieu. Et pour finir, il va passer beaucoup de temps à enseigner. Et on va regarder qu'est-ce que ça implique pour nous aujourd'hui à Carouge. Ça vous dit ? Amen. Donc, ce qui est magnifique, c'est que quand Jésus marche sur la terre, quand on lit l'histoire de Jésus, on peut voir Dieu, on peut admirer Dieu, on peut admirer le caractère de Dieu quand on regarde Jésus, parce qu'il est la représentation parfaite de Jésus, de Dieu. Et en fait, Jésus et Dieu se confondent, et on peut vraiment entrer en relation avec Dieu quand on rentre en relation avec Jésus. Il y a un texte clé comme ça dans Marc 2, verset 15, qui dit « Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et ils l'avaient suivi. » Qu'est-ce qu'on peut lire dans ce texte ? C'est que Jésus y passait beaucoup de temps à table. Ce n'est pas le seul endroit où Jésus y passe beaucoup de temps à table. Là, c'est juste un exemple. Mais on voit avec qui il était à table. Il était à table avec les publicains et les gens de mauvaise vie, avec les pêcheurs, les gens qui n'avaient aucune idée de qui est Dieu. Et c'est pour ça qu'il était à table avec eux d'ailleurs, parce qu'il voulait apprendre à connaître Dieu. Et donc Jésus a passé beaucoup, beaucoup de temps à parler avec les gens, à discuter. Il y a des exemples, il y a en Marc 1, 29... Jésus il se rendit chez Jacques et Jean, à la maison de Siméon et André. Ensuite, il s'est retrouvé dans une maison où des gens ont dû découvrir le toit parce qu'il y avait tellement de monde dans la maison pour faire descendre un malade par le toit, pour que Jésus puisse prier pour le malade. Là aussi, il était à table, comme on l'a lu avant, avec les gens de mauvaise vie, donc chez, dans la maison de Lévi. Et aussi, il se rendit dans d'autres maisons. Et il y a tellement de monde qui s'assemblait autour de lui qu'il n'arrivait même pas à prendre son repas à midi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut voir au travers de l'exemple de Jésus dans les relations ? On peut voir que Dieu est un Dieu relationnel. C'est un Dieu qui aime les relations. Et non seulement on peut voir Dieu, mais on peut voir aussi l'homme parfait selon Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que là aussi, Jésus nous invite à devenir relationnel. Et on peut se poser la question, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à Carouge ? On va s'apprêter à avoir un deuxième culte. C'est évident. Il y a des nouvelles personnes qui vont venir. Et donc, on va devoir entrer dans un cheminement de nouvelles relations. On va devoir accueillir les gens d'une nouvelle manière. Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Comment est-ce que vous allez accueillir les prochaines personnes qui vont passer par la porte ? Est-ce que vous avez réfléchi comment vous allez les accueillir ? Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Bienvenue ! Amen. Et qu'est-ce que Jésus faisait encore avec toutes ces personnes ? Il leur disait « Bienvenue ». Il leur disait aussi « Comment est-ce que tu vas ? De quoi est-ce que tu veux parler aujourd'hui ? Est-ce que je peux prier pour toi ? Est-ce que je peux t'aider à prier ? Est-ce que je peux venir chez toi ? Est-ce que je peux manger avec toi ? Est-ce que je peux boire un café avec toi ? Donc ça va vraiment loin. Jésus va passer toutes ses journées, dans ses trois premiers chapitres, à voir du monde, à voir des foules, etc., à être baigné dans les relations. Et pour nous, aujourd'hui, ça nous encourage aussi de dire, ben, Dieu veut entrer en relation avec nous aussi. Dieu est un Dieu relationnel. Parce que quand on voit Jésus, on voit Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus, que Dieu, aujourd'hui, veut rentrer en relation avec vous ? Est-ce que vous savez que Dieu veut avoir une discussion avec vous aujourd'hui ? Que Dieu veut vous parler ? Que Dieu connaît vos pensées et qu'il veut en discuter avec vous ? Il est prêt à débattre de tous les sujets. Il n'y a aucun sujet qui lui fait peur. Jésus, il n'y a rien qui lui faisait peur. Vraiment rien, aucun sujet. Il n'y a pas un moment donné où il a dit « Non, je ne veux pas parler de ça, ça c'est trop pour moi. » Non, il a pris le temps, il a même oublié de manger. Donc Dieu, il veut vraiment passer du temps avec vous. Il a vraiment à cœur d'être en relation avec vous. Deuxième point, ouais, Jésus, il passait aussi du temps à l'église. C'est aussi un point, il allait à la synagogue tous les samedis. Et dès qu'il pouvait passer du temps avec les gens, il y allait. Et il dit aussi, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-ci est mon frère, ma sœur, ma mère. Donc ça veut dire que lui, il n'a pas de préjugés sur les personnes. Nous, on va peut-être avoir des préjugés sur des personnes. On va peut-être plus facilement voir notre famille que des gens dans la rue. Qui c'est qui est comme ça ici ? Qui c'est qui va plus facilement voir des gens dans la rue que sa propre famille ? Eh bien, Jésus disait, ceux qui font ma volonté sont mon frère, ma sœur. Ça veut dire qu'ils vous acceptent comme vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe si vous faites partie de sa famille ou pas, il veut entrer en relation avec vous. Amen. Et il dit aussi que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Et il n'est pas venu pour appeler des justes, mais des pécheurs. Si jamais pour les versets, j'ai fait un canevas pour les cellules. Je peux vous l'envoyer si jamais vous pouvez me demander. Donc si vous voulez avoir tous les versets, c'est possible. Mais il se trouve dans Marc 1 à 3, donc c'est pas très long. Et donc c'est pour dire que les médecins, ils vont pas dans la rue non plus passer leur temps à essayer de convaincre les gens qui sont malades ou bien. Non. Les médecins, ils vont prendre soin des gens qui sont malades et qui viennent vers eux. Donc c'est aussi ce qu'on doit faire nous. On doit prendre soin des gens qui sont malades et qui le reconnaissent. On n'a pas à passer notre temps non plus aussi à prendre soin des gens qui n'ont pas envie qu'on prenne soin d'eux. Juste ? Donc on peut être un lieu d'accueil pour les gens qui ont besoin. Et on n'est pas là pour culpabiliser les gens ou essayer de manipuler les gens pour qu'ils viennent à l'église ou pour qu'on puisse les aider, etc. Mais on va aider ceux qui en ont besoin. Et il y a aussi des associations locales. Même à Carouge, il y a, je crois, Caritas ou d'autres associations dans lesquelles on peut s'engager pour aider des gens, pour écouter des gens. On n'a pas besoin d'aller juste dans la rue vers les gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ça vous rassure ? Jésus, il faisait pas ça. Tout comme les médecins faisaient pas ça. Donc Jésus, il nous force pas. Il nous force pas à aller vers lui non plus. Mais quand on a un besoin, il est là pour nous écouter. Voilà. Le second point, c'est l'intimité avec Dieu. Jésus va cultiver cette intimité avec Dieu. Il va pas passer tout son temps dans la foule, mais il va aussi se lever vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et on voit qu'il va faire ça régulièrement. Pourquoi ? Parce que, bon, déjà, il a un bain de foule énorme. Donc, on n'a pas tous envie non plus d'être tout le temps dans la foule. Pourquoi est-ce que lui, il le fait ? Pour nous donner aussi un exemple de qu'on sache où sont nos limites. Pourquoi c'est important de connaître nos limites ? Parce que, justement, on n'est pas comme Dieu. Et nous, on est limité. Dieu est illimité. Si on veut pouvoir vivre, on a besoin de Dieu. Et Jésus nous montre qu'on a besoin de Dieu aussi. Amen. Et le deuxième point qu'on peut voir, donc Jésus va aller au désert. L'Esprit va le pousser au désert, où les anges vont le servir. Ensuite, vers une autre fois le matin, pendant qu'il fait encore sombre, il va aller prier dans le désert. Et il se tient aussi dans les lieux déserts où tout le monde venait à lui. Il va aussi aller à la mer, à la montagne, et c'est là qu'il va choisir ses disciples. Et c'est là aussi qu'il va être complètement débordé, il ne pourra même plus prendre son repas. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que Dieu veut avoir un temps avec nous intime, parce qu'il ne veut pas agir seul. Il y a ce verset qui dit dans Genèse 3 qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut aussi dire que la femme soit seule. Mais du coup, de la même manière, ben, Dieu il n'aime pas être seul. Et il veut qu'on passe du temps juste avec lui. Donc de nouveau, il est très relationnel, mais il veut une intimité. D'accord ? Il veut une intimité forte avec vous. Il veut pouvoir rentrer en relation intime avec vous. Et il aime à la fois vous consulter pour savoir qu'est-ce que vous pensez des choses, mais il aime aussi qu'on te vous le consulter. Et c'est là cette intimité que Jésus il avait avec Dieu. Et quand Jésus il a cette intimité avec Dieu, et ben final, ben il nous montre aussi un exemple d'avoir cette relation non seulement horizontale mais verticale aussi avec Dieu. Et Dieu veut avoir cette relation aussi verticale avec nous. Et en ce moment, Zacharie, notre petit-fils, notre deuxième enfant, il se réveille la nuit et il veut du lait. Voilà, ils veulent tous du lait. Les enfants, ils aiment bien les bibons de lait, tout ça. Et du coup, moi, je me réveille la nuit et je viens et je veux lui prendre son biberon pour lui donner du lait, juste. Mais au moment où je lui prends son biberon, eh ben, il va pas vouloir me le donner parce qu'il est à moitié endormi, puis il a peur que je vais pas lui rendre, en fait. Donc il s'agrippe à son biberon, comme ça, puis il commence à pleurer, puis je dois lui expliquer, mais Zacharie, je vais remplir le biberon et je te le ramène. Et ça m'a fait penser à Dieu, en fait, qui nous demande la même chose, qui nous dit, mais tu peux lâcher du temps. N'aie pas peur, je vais te rendre le temps que tu me donnes. Mais il faut que je prenne ton temps pour te remplir. Ça vous parle comme image ? Et ce temps-là, Dieu, il va nous le rendre. Mais quand on prend ce temps avec lui, il nous remplit, justement. Et on ne peut pas vivre sans lui. Zacharie pourrait vivre sans le biberon, hein, j'avoue. Mais bon, comme on ne veut pas qu'il réveille sa sœur. Et il y a un autre exemple aussi. On a planté des tomates sur mon balcon, sur notre balcon. On a planté un plant de tomates. On s'est dit, allez, on va se lancer dans la cultivation de tomates, l'agriculture. Et en fait, ces derniers temps, on était tellement occupés, on a laissé le plant de tomates. Et il est devenu tout flétri. Il ne se passait plus rien. Il n'y avait plus de tomates. À un moment donné, on avait des tomates cet été. Puis après, on n'avait plus rien. pendant 3 semaines. Et l'autre jour, je reviens à la maison et je vois quoi ? Une grosse tomate magnifique rouge. Je me dis, mais c'est passé quoi ? Et puis Anouchka, elle me dit, ben, je l'ai arrosée. Voilà. J'étais là-haut. Donc en fait, si on arrose le plant de tomate, j'ai pas du tout la main verte. Si on arrose tout d'un coup les tomates, tout d'un coup, ça redémarre. Il y a de nouveau une tomate. Et j'étais sidéré. Et je me disais, mais en fait, c'est la même chose avec nous, notre vie spirituelle. Si on ne va pas vers Dieu, il ne va rien pousser, il n'y aura pas de fruits, on sera tout flétri et on se demandera pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et tout d'un coup, juste un petit moment avec Dieu peut faire des fruits énormes. Et vous pouvez voir des choses incroyables se passer. Moi, des fois, je suis comme j'ai plus de force, ou j'ai plus d'idées, ou j'arrive plus à aller de l'avant, ou je suis découragé pour ma journée. Et je prends quand même un temps avec Dieu parce que Jésus nous donne cet exemple. Et tout d'un coup, pendant ce temps avec Dieu, il vient quelque chose d'extraordinaire, une force nouvelle, une idée incroyable qui me redonne le courage pour la journée. Ça vous est déjà arrivé aussi ? Comme ce plant de tomate, c'est miraculeux quoi. On met de l'eau et ça pousse. C'est juste génial. Je vous conseille aussi d'avoir un plant de tomate. Et donc, en fait, vu que Dieu veut passer du temps avec nous, il veut vraiment passer du temps avec nous, et que nous, eh ben, ça nous booste d'avoir ce temps avec Dieu, eh ben, c'est un win-win. C'est juste, tout le monde est gagnant. Vous êtes gagnant, Dieu est gagnant, tout le monde est heureux. Donc voilà. Je voulais le placer quand même, ce win-win. Je trouve quand même que c'est cool. Mais là, franchement, tout le monde est gagnant. Donc Dieu aime passer du temps avec nous. Et il souhaiterait que vous ayez du plaisir à passer du temps avec lui. Et Dieu, il nous rappelle aussi qu'on a des limites et qu'on a besoin de lui pour vivre. Et tout ça au travers de la personne de Jésus. Tout ça en observant Jésus dans les évangiles. C'est beau, non ? Et on peut apprendre plein d'autres choses. Et la troisième chose qu'on peut observer, c'est le message de Jésus. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Donc ça commence un petit peu comme ça l'évangile, et il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Jésus va enseigner de 3 manières différentes, si on regarde. Il va enseigner par les miracles, en faisant des miracles. Il va enseigner par des paraboles. Et ensuite, il va former ses disciples en leur donnant des temps de formation pratique. Et tout ça, on voit dans ces premiers chapitres. Et pourtant, les trois manières d'enseigner pointent vers le même but. C'est le royaume de Dieu. Parler du royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez des fois au royaume de Dieu pendant la journée ? Est-ce que vous pensez comment ça va être glorieux là-haut ? Nous, on est là, on est un petit peu embêtés parce qu'on va avoir 2 cultes, etc. Puis on se dit, bon, on va être séparés. Il y en a qui vont aller au premier culte, les autres au deuxième culte. Mais pensez qu'au royaume de, dans le royaume de Dieu, on sera tous réunis. Pas seulement nous ce matin, tous ensemble, mais aussi avec les croyants d'avant, avec les croyants d'après. Tous les croyants vont être réunis au royaume de Dieu. Et Jésus, il passe sa journée à enseigner sur le royaume de Dieu, sur ce qui va venir. Il a sans arrêt cette idée, cette image de ce qui va venir. Et il enseigne là-dessus toute la journée, rien que par les miracles. Alors on va regarder un petit peu les miracles qu'il y a dans ce petit passage. Il y a la délivrance de l'homme à l'esprit impur. Donc c'est, ouais, quand il va dans la synagogue, il y a tout d'un coup, donc il va dans une église, enfin voilà, une église juive, et il se trouve là-bas, et tout d'un coup il y a un homme qui commence à se lever et qui commence à crier, qui commence à dire « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre ?» Ça, c'est pas encore arrivé chez nous, hein. Mais imaginez ça, il y a quelqu'un qui se lève et puis qui commence à crier contre vous dans l'église. Et Jésus dit, tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sort en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Et tout le monde se dit, mais c'est une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et qu'est-ce que Jésus enseigne par ce miracle ? Il enseigne qu'il est le roi et qu'il va être le roi dans son royaume ensuite. Qu'il n'y a personne qui peut faire contre lui, et dans le royaume qui vient, les esprits, il n'y aura pas d'esprit impur non plus, il n'y aura aucun esprit impur. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de mauvais esprit, il n'y aura personne pour vous faire peur, il n'y aura personne pour vous faire du mal, il n'y aura personne qui sera démoniaque, démonisé. On va passer un petit peu en revue. Je ne sais plus s'il me reste beaucoup de temps, non. Donc il y a la guérison de la fièvre de la belle-mère de Simon. Là non plus, il n'y aura pas de maladie dans le royaume qui vient. Et d'ailleurs, la guérison de pratiquement tous les malades de Capernaum, elle est démoniaque. Donc là, à ce moment-là, les malades, ils viennent se jeter sur Jésus, ça devient complètement fou. Il y a la guérison du lépreux, la guérison du paralytique qui est descendu par le toit, la guérison de l'homme à la main sèche à la synagogue. Donc encore dans une synagogue, encore à l'église, pas mal de guérisons dans l'église. Et finalement, toutes ces guérisons, eh ben, elles pointent vers le royaume de Dieu, elles annoncent le royaume de Dieu. C'est une énorme annonce de dire « le royaume de Dieu vient ». Repentez-vous et venez à moi. Amen. Et après, il va aussi parler par des paraboles aux foules. Et il va utiliser plusieurs paraboles. Le jeune et l'époux. Donc là, il parle de l'époux. Donc lui, il est l'époux. Et nous, on va aller à sa rencontre dans le royaume. Et on va être mariés avec lui. On voit ça dans l'Apocalypse notamment. Le tissu neuf et vieux. Qui veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu en étant avec notre vieille nature. On ne peut pas arriver avec notre vieille nature, on a besoin d'être transformé. On a besoin d'être rendu semblable à lui par la foi et par la grâce. Le vin nouveau dans les vieilles outres aussi. Le Shabbat pour l'homme. Le Shabbat, c'est aussi une image du royaume qui vient, qui sera un Shabbat éternel. Pensez à ça, on va se reposer éternellement. C'est quand même beau, non? Vous réjouissez? Se reposer éternellement. Amen. Merci Seigneur. Et il dit aussi qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. Et là, il parle aussi de l'unité qu'il va y avoir dans le royaume. Il parle aussi de la maison de l'homme fort. Là, le diable va être mis dehors. Et là, du coup, Dieu, il aura le contrôle sur tout. Il va régner sur tout. Et du péché contre le Saint-Esprit. Qui dit que celui qui renie le Saint-Esprit, il renie la vie éternelle. Parce que les gens, ils accusaient Jésus de faire ce qu'il faisait, les miracles et tout ça, par la puissance d'un démon. Et si on ne reconnaît pas le Saint-Esprit à ce moment-là en Jésus, eh ben, on ne reconnaît pas la vie éternelle qui est offerte par derrière. Donc, entre guillemets, ça a des conséquences éternelles. Voilà. Donc, Jésus, il va avoir ce message toujours du royaume de Dieu en trois manières de faire. Et il va enseigner comment est-ce qu'on va vivre dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est par les miracles. Comment est-ce que ça va être? Comment aussi on fait pour entrer dans le royaume de Dieu? Et puis, pour finir, comment partager le royaume de Dieu avec nos proches? Et ça, il le fait par des formations pratiques. Ouais, tout le monde disait qu'il était possédé. Et comme on a vu, ben, ça a des conséquences. Il monta ensuite sur la montagne et appela ceux qu'il voulut, donc les disciples. Et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Et là, c'est la formation pratique que Jésus fait. Il prend ses disciples, il les envoie faire la même chose que ce que lui fait. Prêcher, guérir les malades, chasser les démons. Donc c'est le troisième type d'enseignement que Jésus utilise. Et ça, il le fait encore aujourd'hui? Est-ce qu'il existe des formations comme ça? Amen. Il y en a qui ont été formés dans la guérison des malades, la délivrance. Il y a une école sur la guérison miraculeuse qui va commencer bientôt à Oron, que j'ai pu suivre. C'est juste essentiel de pouvoir être formé, de ne pas juste aller dans la rue, mais d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît mieux, qui peut nous accompagner pour pouvoir vraiment compter sur Jésus dans ces moments-là. Et j'aimerais vous laisser avec ces questions, de savoir où est-ce qu'on en est avec notre relation avec Dieu. Première question, et après je vais aussi faire un appel. Où est-ce qu'on en est avec notre intimité avec Dieu? Est-ce qu'on sait que Dieu veut rentrer en relation avec nous déjà? Première chose. Et puis est-ce qu'on a fait ce pas de rentrer en relation avec lui? Et après, si on est déjà en relation avec lui, où est-ce qu'on en est dans notre intimité avec Dieu? Est-ce qu'on est conscient que Dieu veut avoir des temps d'intimité avec nous et que c'est important pour nous? Pour notre équilibre. Et pour finir, où est-ce qu'on en est dans notre formation, dans notre enseignement? Est-ce qu'on est appelé à former d'autres ou est-ce qu'on est appelé à être formé? Et où, dans quel poste? Ça peut être l'évangélisation, l'accueil, la technique, la louange pour l'Église. Mais après, il y a aussi des missions hors de l'Église. Et où est-ce que Dieu vous appelle? C'est vraiment ça. L'important, c'est de savoir où Dieu vous appelle. Mais principalement, c'est prêcher l'Évangile, chasser des démons, guérir des malades. Donc, comme le disait Matt Joe la semaine passée. Donc, j'aimerais vous proposer maintenant un temps d'appel, donc d'engagement. Et je vous propose de fermer les yeux pour ça. Et je vais faire différents appels. Je vous propose juste de lever les mains pendant ces appels. Et après, on va prier courtement. Et puis, si vous avez des questions après ces appels, si vous avez besoin de partager certaines choses, vous pouvez venir vers moi ou vers Thierry qui a parlé aussi avant. Et on sera une joie de vous accueillir et de vous dispatcher vers différentes responsables de secteur ou alors vers vous donner une Bible ou etc. Déjà, j'aimerais appeler donc les personnes qui ont jamais pensé avoir une relation avec Dieu, pensé que Dieu voulait une relation avec eux, qui ont jamais pensé à ça. Si vous pouvez juste lever la main et qui aimerait avoir une relation avec Dieu aujourd'hui, ce matin, qui aimerait entrer dans une relation plus profonde. Et je vous propose de prier spécialement pour ça. On peut tous prier pour ça. Vous pouvez répéter après moi simplement. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'aimes, que tu veux rentrer en relation avec moi ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice sur la croix, pour que je sois sauvé. Oui Seigneur, tu t'es sacrifié pour mes péchés. Tu as pris mes péchés sur toi, à la croix. Seigneur, je veux te donner ma vie aujourd'hui. Et je veux apprendre à te connaître plus. Amen. Je vais faire un deuxième appel pour les personnes qui ont vraiment besoin d'une plus grande intimité avec Dieu maintenant. Qui ont besoin de pouvoir passer plus de temps avec Dieu. Ils sentent que leur biberon de lait, il est vide. Et qu'ils s'y accrochent. Ou ils sentent que leur tomatier, il est tout flétri. Puis ils n'en peuvent plus de cette terre aride, cette terre sèche. Mais voilà, ils n'arrivent pas à faire le pas. De passer plus de temps avec Jésus, du temps d'intimité. Amen. On va prier aussi pour ça. Vous pouvez répéter aussi après moi. Seigneur Jésus, merci pour le temps d'intimité que tu veux m'offrir chaque jour. Seigneur Jésus, merci parce que tu prends du temps spécialement pour moi. Pour que je puisse être rempli chaque jour de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis sec, je suis vide sans toi. Seigneur, viens me remplir chaque jour et viens me montrer comment passer plus de temps avec toi. Amen.